amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes encore là, le Théâtre de la Gamelle, pour la dernière émission de la saison 5. Bonjour donc. On entend des choses.
Patron, un demi, chicocu.
Les conteurs sont tous des menteurs.
Ce nuage ressemble à un Pokémon.
Hier, au marché, j'ai vu la voisine. Tu sais pas ce qu'elle m'a raconté ?
Un Pokémon mort.
Et vous partez où pour les vacances ?
Ah, n'en parle pas.
Les Norvégiens sont les plus gros mangeurs de glace en Europe.
Eh ben moi, la maîtresse, elle m'a dit qu'il fallait lever la main pour pouvoir parler, sinon ben je parlais pas.
J'ai un secret à te dire.
Oui, on en raconte donc des choses. Des histoires à dormir debout, des histoires pour se rassembler en fait. Des histoires pour rêver, pour rire, pour découvrir, pour voyager aussi. Oui, des histoires. On raconte.
Il était une fois...
Det var en gang.
Era se una vez.
Once upon a time.
Es war einmal.
Mukashi mukashi. Oui, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Spécial conte. Et aujourd'hui, j'accueille dans le local de le théâtre de la Gamelle, Lodoïs Doré et Delphine Touilleux. Bonjour à vous tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Rapidement, oui, ça peut se faire.
Merci.
Donc, oui, je m'appelle Lodoïs Doré et je suis conteur, comédien et metteur en scène sur Lyon et la région. Voilà.
Ok. Et Delphine ?
Je m'appelle Delphine Touilleux. Je suis conteuse, comédienne comme Lodoïs, mais je suis aussi clown et je ne suis pas metteuse en scène.
Les trois C.
Voilà. Dans la région, comme Lodoïs, mais aussi ailleurs. J'ai l'habitude de commencer mes histoires en disant « Je viens d'ici, mais j'habite ailleurs. J'habite tout au nord du monde, dans le pays du nord du monde. Là où il y a 6 mois de soleil et 6 mois de nuit. Ce pays, c'est la Norvège. Voilà, j'habite à Oslo. Et à Oslo, j'ai appris le norvégien et je me suis nourrie de contes scandinaves. Et voire même de la mythologie scandinave. Et comme c'est moi qui dois commencer à raconter une histoire, et ben, je me suis dit, puisque on est des conteurs, on raconte autant des contes que des nouvelles, que des légendes, que des mythes. Et en France, on a souvent plus entendu parler des mythes de la mythologie grecque, et peut-être un peu moins des mythes de la mythologie nordique. Et je vais essayer aujourd'hui de vous donner un aperçu. Alors juste avec un mythe, hein, je ne vais pas raconter la mythologie nordique dans son ensemble, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué, mais je vais essayer de donner un aperçu de ce que c'est la mythologie nordique. Je vais vous parler donc d'Odin. Alors je ne vais pas dire Odin, qui est le dieu des dieux nordiques, je vais dire Odin, tout simplement parce qu'en Norvège on dit Odin et que j'ai un peu du mal à le dire à la française, donc... Je vais donc vous parler d'Odin. Et Odin, il est avec d'autres dieux norvégiens, d'autres dieux nordiques, dans le monde des dieux, dans le royaume des dieux. Et ça se passe pas toujours très bien. En gros, ils ont eu pendant pas mal d'années des conflits entre les dieux, et là où commence mon histoire, ils viennent juste de se réconcilier. C'est la paix entre les dieux, entre les deux clans de dieux. Et pour célébrer leur paix, tous les dieux crachent de leur salive dans une grosse marmite. Et de cette salive, il façonne un homme, Kvasir. Kvasir, l'homme qui sait tout, l'homme qui possède la sagesse des dieux. Et Kvasir, les dieux l'envoient sur terre. Et Kvasir voyage au milieu des hommes. On dit qu'il n'y a pas une question dont Kvasir ne peut donner de réponse. Il enseigne la sagesse des dieux aux hommes. Et dans le monde des hommes, dans le Nord, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des géants. Il y a aussi des nains. Fialar et Galar, deux nains. Les nains, c'est les créatures du monde souterrain. Ils vont dehors, ils vont aussi à l'intérieur, dedans. Ils manigancent. Et Fialar et Galar invitent Kvasir dans leur grotte. Pour un dîner. Et au dîner, il y a à boire. Et Kvasir a beau être l'homme le plus sage du monde, la boisson lui fait perdre la raison. Il boit, jusqu'au bout de la nuit. Et il tombe, saoul. Et Fialar et Galar en profitent pour sortir leur couteau et le tuent. Ils jettent le corps de Kvasir dans la mer, mais auparavant, il récupère son sang. Il récupère son sang dans trois jarres qu'il mélange avec du miel. Il fabrique trois jarres d'hydromel. De l'hydromel de sagesse. Et Fialar et Galar gardent leurs trois jarres d'hydromel dans leur grotte. Seulement, la rumeur court. Les voisins sont rapidement au courant que chez Fialar et Galar, il y a un trésor. Et les voisins sont curieux, surtout les plus proches voisins de Fialar et Galar, Giling et sa femme. Ce sont deux géants. Et ces deux géants se font inviter chez Fialar et Galar pour passer la journée, comme ça, entre voisins. Fialar et Galar les invitent chez eux, et puis, pour ne pas passer la journée dans la grotte, ils leur proposent d'aller sur la mer, faire un tour de bateau. La femme de Giling demande à rester à l'intérieur. Elle ne sait pas nager. Giling, lui non plus, ne sait pas nager, mais il accepte de faire un tour de bateau. Et lorsqu'ils sont sur le bateau, Fialar, Galar et Giling, le voisin, la mer est agitée. Et les deux nains se débrouillent pour faire tanguer le bateau si fort que Giling tombe à l'eau. Et Giling se noie. Fialar et Galar rentrent chez eux dans leur grotte. Ils annoncent à la femme de Giling qu'ils étaient sur le bateau, la balade était plaisante, il y avait du soleil, la mer était agitée un peu, mais pas tant que ça. Mais Giling est tombé à l'eau, Giling s'est noyé. La femme de Giling s'effondre en pleurs. Elle demande d'aller se recueillir vers la mer, là où son mari est mort. Les deux nains l'accompagnent vers la sortie de leur grotte et au moment où elle sort, Fialar fait tomber une énorme meule de foin qui tue net la femme de Giling. Il se débarrasse de son corps, seulement Sutung, le fils de Giling, apprend la nouvelle et Sutung veut sa vengeance. Il rentre chez Fialar et Galar, attrape les deux nains par la peau du cou et les emmène sur un rocher au milieu de la mer. La mer est basse. Il assoit les deux nains en haut du rocher. Et Sutung, le géant, tourne autour d'eux. Il attend. Une heure, deux heures, et la mer monte. La mer monte si haut qu'à un moment donné, les deux nains, ils ont de l'eau jusqu'au cou et Fialar et Galar, ils ne savent pas nager. Ils demandent « Vie sauve !» Sutung accepte de leur sauver la vie s'ils récupèrent les trois jarres d'hydromel de sagesse. Les deux nains se concertent rapidement car l'eau monte et lorsqu'ils ont de l'eau jusque dans la bouche, ils acceptent, pour sauver leur vie, de donner les trois jarres d'hydromel. Sutung les récupère, il les ramène chez eux et puis il prend les trois jarres d'hydromel Et ces trois jarres, il va les cacher. Il va les cacher dans une montagne qui ne s'ouvre pas, qui ne se ferme pas. Soutung va cacher les trois jarres d'hydromel au cœur de la montagne. Et pour que ces trois jarres soient bien gardées, il demande à sa fille, la belle Gunnlöd, la géantissime Gunnlöd, la géantissimement belle Gunnlöd, de s'enfermer dans la grotte avec les trois jarres pour les garder. Gunnlöd n'a pas le choix. Elle se retrouve dans le noir à attendre et elle garde les trois jarres d'hydromel de sagesse. Au royaume des dieux, on a vu ce qui s'était passé. Et Odin, le dieu des dieux, il veut récupérer l'hydromel de sagesse. Alors il descend dans le monde des hommes et se déguise en voyageur pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et il arrive dans un champ. Un champ où 9 esclaves sont en train de travailler. Ils fauchent les blés. Et Odin arrive avec une hache sur l'épaule. Une hache très coupante. Et il la montre aux 9 esclaves. Il montre comment sa hache est aiguisée, comment sa hache coupe. Et il leur vante les mérites de cette hache. Avec de bons outils, on fait du bon travail et le travail va plus vite et le travail est moins pénible. Les 9 esclaves sont très intéressés par cette hache. Ils décident de l'acheter. À ce moment-là, Odin lève la hache au-dessus de son épaule. Et les 9 esclaves se retrouvent raides morts sur le sol, la tête coupée. Odin se rend chez le propriétaire des 9 esclaves. Le propriétaire, il vient d'apprendre la nouvelle. Ces 9 esclaves, ceux qui devaient travailler tout l'été pour lui, ceux qui devaient faire rentrer l'argent dans sa maison, sont morts. Il n'a plus personne, ses terres vont être à l'abandon. Il court à la perte, il court à la ruine. Alors lorsqu'Odin se présente à lui, déguisé en voyageur, en inconnu, et lui propose de faire le travail des 9 esclaves, oui, oui, car il a une hache qui coupe, une hache bien aiguisée. Lorsqu'Odin lui propose de faire le travail des 9 esclaves, le propriétaire accepte. Odin demande en paiement l'hydromel de sagesse. Car le propriétaire du champ, le propriétaire des 9 esclaves, est le frère de Soutung. Alors Odin demande au frère de Soutung de l'aider à récupérer l'hydromel de sagesse. Le frère de Soutung, lui, il voit ses champs, il voit son argent qui est en train de se perdre, alors il répond oui, il réfléchit pas, il dit seulement oui, on verra plus tard, on verra en octobre lorsque la saison sera terminée. Et Odin travaille. Il fait le travail des 9 esclaves tout l'été. Et puis lorsque arrive octobre, il demande sa récompense, son paiement. Le frère de Soutung se trouve bien embêté. D'abord, il va voir Soutung. Il lui demande s'il serait possible que le voyageur, l'homme qui a travaillé pour lui, puisse recevoir un peu d'hydromel de sagesse. Mais Soutung répond non, il est hors de question. Alors le frère de Soutung aide Odin à percer la montagne. Et le frère de Soutung, avec ses outils, il perce un trou dans la montagne. Il perce un trou si loin, si profond, qu'il arrive au cœur de la montagne. Odin se change en serpent et il passe dans le trou. Et il arrive au cœur de la montagne, là où se trouve la belle, la géantissime Gunnlöd avec ses trois jarres d'hydromel. Arrivé au cœur de la montagne, Odin se change en dieu, en Odin. Et lorsque la belle Gunnlöd, elle voit ce dieu divinement beau, sachant qu'elle a été dans cette grotte, dans le noir, toute seule, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, eh bien, Odin, il n'a pas besoin de la séduire beaucoup avant qu'ils se retrouvent tous les deux dans leur lit, par terre, dans la grotte, et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Odine lui demande « Une gorgée d'hydromel, juste une gorgée !»« On verra ça plus tard, » dit Grunlod. Et à nouveau, ils se retrouvent par terre et ils passent une deuxième nuit ensemble. Le deuxième jour, Odine demande « Une gorgée d'hydromel, juste une gorgée d'hydromel !»« On verra ça plus tard, » dit Grunlod. Et à nouveau, ils se retrouvent par terre et ils passent une troisième nuit ensemble. Et le troisième jour, Odine demande « Une gorgée d'hydromel, juste une gorgée ?» Et Grunlod accepte. Elle sait qu'elle va pas pouvoir cacher cet homme, ce dieu, aussi longtemps qu'elle le voudrait. Parce que son père, Sutung, il vient dans la grotte, il vient dans la montagne de temps en temps, rien que pour lui apporter à manger. Alors, elle accepte trois gorgées d'hydromel pour trois nuits avec un dieu. Des petites gorgées d'hydromel, son père y verra rien du tout. Sauf que lorsque Odin il attrape la première jarre pour boire sa première gorgée, il n'en fait qu'une gorgée. Il attrape la deuxième jarre, il n'en fait qu'une gorgée. Il attrape la troisième jarre, il n'en fait qu'une gorgée. Et Odin se change en aigle. Et il sort de la montagne. Et à ce moment-là, au bas de la montagne, Sutung le voit. Et Sutung comprend ce qu'il s'est passé. Alors lui aussi, le géant Sutung se change en aigle. Et dans le ciel, on voit Odin l'aigle voler le plus vite qu'il peut jusqu'au royaume des dieux et derrière lui, prêt à le rattraper. Sutung, l'aigle, voler après lui. Et du royaume des dieux, les dieux y voient la scène. Alors vite, ils préparent une énorme jarre, juste à la limite du royaume des dieux. La jarre est prête à tomber, mais l'aigle Odin arrive. Lorsqu'il se trouve au-dessus de la jarre, il crache, il vomit tout l'hydromel qu'il avait dans le ventre et va se réfugier dans le royaume des dieux. Sutung l'aigle arrive trop tard. L'hydromel est perdu. Mais pas vraiment. Parce que dans la précipitation, lorsque Odin a craché l'hydromel dans la jarre, il y a des gouttes qui sont tombées dans le monde des hommes. Et sur Terre, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui regardent le ciel la bouche ouverte. Des rêveurs. Et ils ont avalé les gouttes d'hydromel. Et c'est comme ça que sur Terre, les conteurs sont apparus. Les chanteurs, les musiciens, les poètes, les écrivains, les sculpteurs, les peintres, les artistes. Cet hydromel, on dit que c'est l'hydromel de la poésie.
Jacques est agriculteur. Jacques vit dans une petite maison en pierre, au milieu des montagnes. Alors quand je dis que Jacques est agriculteur, entendons-nous, hein, il a un petit carré de terre avec quelques choux, quelques aubergines, quelques tomates, c'est tout. Pas de tracteur, pas de grand champ. Il a quelques moutons aussi, avec lesquels il fait la laine. Jacques est heureux. Globalement, on va dire qu'il est plutôt satisfait de sa vie. Il n'est pas... c'est pas un aventurier, il se passe rien d'extraordinaire, mais Jacques, il a des petits plaisirs dans la vie qui la remplissent complètement. Par exemple, un de ses petits plaisirs qu'il préfère, c'est le matin, quand Jacques se lève, il sort de son lit, il sort de sa maison, il regarde le soleil, il sent le vent, et là, il va dans son jardin. Et dans son jardin, à côté des aubergines et des courgettes, il y a un figuier. Un figuier énorme, qui était là déjà à l'époque de l'arrière-arrière-grand-père de Jacques. Et Jacques, son grand bonheur du matin, c'est d'aller voir son figuier et de pisser sur son figuier. Voilà. Et un jour, lorsque l'histoire commence, Jacques, comme tous les matins, se lève, va devant son figuier, baisse sa braguette, commence à pisser sur son figuier, et tout d'un coup, Dieu apparaît. Moi, je sais, c'est extraordinaire, mais pof, Dieu apparaît. Tout d'un coup, plof, 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 une énorme barbe blanche, assis sur une branche. Alors, Jacques est un peu surpris, évidemment. Il referme sa braguette. Bonjour. Bonjour, Jacques. Tu es une très très bonne personne, Jacques. Écoute, en ce moment, c'est les soldes au paradis. Alors, si tu le souhaites, je vais exaucer un de tes souhaits.
Ah bon? Un souhait? Vous voulez dire n'importe lequel?
Oui, Jacques. N'importe quel souhait. Simplement, voilà. Quoi que tu me demandes, ton voisin, Jean, obtiendra le double.
Jean, il habitait sur la colline en face. Une petite maison, comme celle de Jacques, un petit jardin, comme celui de Jacques, quelques moutons. Mais Jacques n'aimait pas trop Jean. À vrai dire, il avait toujours trouvé les moutons de Jean bien plus gras que les siens, ses aubergines plus grosses, l'herbe de son jardin plus verte, sa porte plus marron. Enfin bref, voilà, il était un peu jaloux. Bon, la dernière clause embêtait un peu Jacques, mais bon, quand même, un souhait n'importe lequel, c'est quelque chose. Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour réfléchir?
Bien sûr, Jacques. On se revoit demain.
Et paf, Dieu disparut. Jacques partit travailler toute la journée dans son potager avec ses moutons. Mais bon, ça lui tournait dans la tête. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je pourrais demander? Il se coucha le soir. Qu'est-ce que... Je sais. Je vais demander des moutons. Je vais demander 40 gros moutons gras pleins de laine. Voilà, je vais demander ça, 40 gros moutons gras pleins de laine. Oh, ça va être extraordinaire, j'aurai de la laine partout, je pourrai aller la vendre au village. Oh là là, 40 gros moutons pleins de laine, 40 gros moutons pleins de laine, 40 gros moutons. Et Jacques s'endormit. Et Jacques se mit à rêver. Il rêva qu'il était chez lui, qu'il se réveillait comme tous les matins, qu'il sortait pour aller pisser sur son figuier, mais que là, devant chez lui, il y avait 40 gros moutons gras qui étaient là et qu'il regardait avec des grands yeux remplis d'amour et qui se frottaient contre ses jambes et qui disaient « Jacques, Jacques !» Les moutons ne bêlaient pas, ils disaient « Jacques, Jacques !» et ils sautaient tout autour de lui « Jacques, Jacques !» et les moutons dansaient avec Jacques et Jacques dansait avec les moutons et ils couraient dans les champs tous ensemble « Jacques, Jacques !» Jean, au milieu des 40 moutons, il y avait un gros mouton noir avec des yeux rouges qui regardait Jacques et qui disait « Jean, Jean !» Et Jacques alors leva le regard et vit que derrière ces 40 gros moutons, il y avait 80 énormes moutons noirs aux yeux rouges qui tous le regardaient en faisant « Jean, Jean, Jean !» Et alors, les 80 moutons noirs se mirent à dévorer les 40 gros moutons de Jacques qui se réveilla en sursaut, en sueur dans son lit. « Oh non, non !» Non, non, 40 moutons, non, c'est une très mauvaise idée, surtout pas 40 moutons. Oh là là. Bon, c'était le milieu de la nuit. Jacques sortit, se mit à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien demander? Qu'est-ce que je pourrais bien demander? Je sais. Je vais demander 20 hectares de terre. La terre, c'est discret. La terre, c'est silencieux. 20 hectares de terre brune. Et je pourrais faire pousser du blé. Oui, oui, ce sera très bien. De la terre et du blé. Jacques se recoucha. De la terre et du blé. De la terre. Et Jacques se mit à rêver. Encore une fois, Jacques rêva qu'il se réveillait chez lui. Il ouvrit la porte pour aller pisser sur son figuier, mais alors... Devant chez lui, il vit 20 hectares de terre brune et noire. Jacques s'agenouilla dans son champ, prit la terre entre ses mains. Elle était meuble. Elle s'effrita, délicatement, lui laissant les mains toutes noires, avec une odeur de forêt, d'humus. C'était magnifique, merveilleux. Jacques vit devant sa maison deux gros sacs de blé. Il les prit et commença à semer le blé devant chez lui. Rah, avec un geste large, à semer le blé, qui, tout d'un coup, se mit à pousser. Le blé sortait de terre. Et un immense champ de blé vert apparut devant la maison de Jacques. Le vent se leva et se mit à souffler dans le blé. Faisant une immense mer verte devant la maison de Jacques. Le blé devint tout doré et le vent continuait à souffler et à siffler dans le blé. Et alors, le sifflement du vent fit entendre des « Jacques, Jacques, Jacques » et Jacques dansait dans les blés. « Jacques, Jean !» Jacques s'arrêta tout d'un coup et il vit, au-delà de ses 20 hectares de blé, 40 hectares de maïs OGM, 40 hectares de plantes noirâtres qui poussaient tordues et biscornues énormes, recouvertes d'épis rougeâtres avec des dents Jean. Et les épis de maïs OGM commencèrent à dévorer le champ de blé de Jacques en hurlant « Jean, Jean, Jean !» se réveilla en sursaut, en sueur. Dehors, le soleil s'était levé. Et Jacques n'avait aucune idée. Et en plus de ça, il avait très 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 envie de pisser. Bon, je trouverai sur le chemin. Jacques se leva, il sortit de sa maison, bon peut-être que Dieu aura oublié qu'il viendra demain. Il alla dans son potager, devant son figuier, personne. Il ouvrit sa braguette, il commença à pisser, et là, paf, Dieu apparut. Et merde. Bon, Jacques referma sa braguette. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors ? Est-ce que tu as trouvé ? Jacques réfléchit un petit peu. Et alors, tout d'un coup, il dit « Oui, j'ai trouvé. Crève-moi un œil. » Et voilà.
Merci. Merci, Lodoïs. Des frissons de partout avec cette histoire très, très drôle, très drôle, j'ai envie de dire. Et merci aussi, Delphine, pour ton histoire. Donc, chacun, vous avez des histoires. Lodoïs, tu me coupes si je me trompe. C'est une histoire de ta maman.
Oui.
Toi, Delphine, c'est des histoires qui viennent du pays dans lequel tu habites maintenant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi un jour vous vous êtes dit, ah ben moi, tiens, j'ai envie de raconter des histoires aux gens. Qu'est-ce qui vous a amené au conte?
Ouais, pourquoi tout d'un coup j'ai envie de raconter des histoires? En fait, je pense qu'on raconte des histoires toute notre vie. Quand on est enfant, on se raconte des histoires. On en raconte, quand on raconte à ses copains le film qu'on a vu la veille, on raconte des histoires. En fait, on raconte tout le temps des histoires. Après, l'idée, c'est plus qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie d'en faire son métier. Bon, après, avec Lodoïs, on est aussi comédien. Il n'y a pas que le conte qui fait notre métier, mais c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah tiens, moi, je vais aller demander des sous pour raconter des histoires. Non, mais voilà, je vais en faire mon métier. Parce que c'est vrai que je trouve, enfin, il me semble que c'est important de dire que tout le monde raconte des histoires et surtout que tout le monde peut raconter des histoires. Que c'est pas, alors évidemment, ça s'apprend pour après les raconter sur une scène. Mais en fait, on raconte tous des histoires et il y a pas un talent particulier qui fait que, oh ouais, je suis née et...
Une lumière transcendantale du conteur qui te tombe sur la tête comme ça. Ça
tout à fait, pas. Voilà. Alors moi, en fait, le conte, de ce que je m'en souviens, parce que après c'est mes souvenirs, je sais pas si c'est la réalité, mais je dirais que je connaissais pas trop les conteurs. Je connaissais les contes parce que oui, je lisais beaucoup de livres quand j'étais enfant, mais ils me semblent pas être allés à des séances de contes ou à des spectacles de contes. Du moins, j'en ai pas, pas
le souvenir. T'as pas marqué en tout cas.
Ouais, ouais, je suis allée voir des spectacles quand j'étais enfant, mais pas. Je me semble pas que c'était spécialement du conte. Mais j'ai vraiment découvert le conte avec le mot conte derrière. Lorsque j'étais en école d'éducateur spécialisé, j'ai fait une école d'éducateur spécialisé vers Saint-Étienne. C'est là d'où je viens.
Ça s'entend.
Et dans cette école... Comment?
Ça s'entend.
C'est vrai? Ouais, j'ai un bel accent, je sais. Et dans cette école, on nous proposait de participer à des stages. Alors, on avait stage de conte, stage de théâtre. L'idée, c'était que dans notre métier d'éducateur spécialisé, on pouvait avoir besoin d'outils de médiation. Donc d'outils artistiques, alors ça pouvait être d'outils plus sportifs, enfin d'outils de médiation pour rentrer en contact, mais pour travailler avec le public avec lequel on travaillait. Et donc parmi les médiations proposées, il y avait stage de conte d'une semaine. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Et ça a un peu été la révélation. Je me suis aperçue que j'étais plutôt à l'aise pour raconter. J'étais plutôt à l'aise sur scène, mais parce que ça, j'avais fait depuis que j'ai 10 ans, j'ai fait du théâtre en amateur, donc c'est vrai que ça m'a aidée forcément. Et je me suis aperçue que c'est vrai que le conte, en fait, ça répondait à toute. En fait, oui, c'était logique que le conte, ça m'aille bien parce que j'ai toujours été une enfant qui aimait rêver, qui m'inventait des histoires. Et en fait, le conte, c'est pas tellement de raconter des histoires. Le conte, c'est d'abord de se faire des histoires dans sa tête. Alors pas de se faire des histoires ou d'écouter une histoire et puis de se faire un film dans la tête. Et une fois que t'as toutes les images du film, du conte dans ta tête, eh ben, tu vas pouvoir raconter ces images. Et disons que je suis plutôt douée pour me faire des images dans la tête. Je pense que je suis une des personnes qui est dans la mythologie nordique qui aurait pu regarder le monde des dieux avec des grands yeux et ouvrir la bouche et recevoir une goutte d'hydromel parce que ouais, je sais bien me faire des images. Et donc voilà, après ce stage, le conte ça m'a intéressée et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce stage, l'éducateur conteur qui nous a fait le stage m'a proposé de venir raconter avec son association, je fais un petit peu de pub,
qui s'appelle
Qu'on se le dise, qui est en Haute-Loire. Voilà, et en fait, ça a commencé comme ça, je suis partie avec lui, avec les autres conteurs, et j'ai raconté, et c'est vrai que, je me suis jamais formée au conte, en fait, je me suis formée au conte en faisant des stages ou une école.
Puis en pratiquant, j'imagine.
Mais en fait, je me suis formée en pratiquant.
Voilà.
Alors, bien sûr, maintenant, j'ai envie d'étudier plus profondément le conte et donc de me former peut-être, en faisant des stages ou autre. Mais c'est vrai que j'ai vraiment, en fait, je me suis jetée dans le conte et sur scène. Et voilà. Je te laisse la parole.
Bah, merci, Delphine.
Pour ma part, tu l'as dit tout à l'heure, cette histoire, là, Jean et Jacques, je dis une histoire de ma maman, mais dans les faits, c'est pas une histoire de ma maman.
Mais c'est mignon, hein,
pour moi. Une histoire de ma maman. Mais non, c'est un conte qui se raconte depuis très longtemps. De toute façon, Jean et Jacques, c'est dans les contes européens, ils reviennent hyper souvent, comme Nasreddin dans le Moyen-Orient. c'est des personnages très récurrents. Mais bref, c'est une histoire que m'a raconté ma mère, parce qu'en fait, ma mère est conteuse. Ah, elle, oui, on peut dire ça, ma mère est conteuse. Et elle est comédienne aussi, mais du coup, en fait, quand j'étais petit, elle a monté plusieurs spectacles de contes, mais dont un surtout qui s'appelle Zézinia, conte de ma grand-mère. Donc elle-même transmettait déjà des histoires qui remontaient encore en arrière. Enfin voilà. Mais du coup j'étais son cobaye, c'est-à-dire qu'elle me racontait plein d'histoires. J'adorais les histoires, j'adore toujours les histoires, mais elle me racontait plein d'histoires et moi je trouvais ça absolument génial. Et j'ai mis assez longtemps avant d'aller vers le théâtre en fait, vu que mes parents font ça aussi. Mais j'ai toujours raconté des histoires et en fait les histoires de ma mère, ça fait très longtemps que je les raconte. Du coup, bah, dans mon glissement vers le théâtre, ça se fait assez naturellement, en fait, de continuer, en fait, à raconter ces histoires-là, mais de façon plus, comment dire, plus, j'ai envie de dire officielle, mais c'est peut-être pas le bon mot, disons, spectaculaire. Voilà. D'où j'ai commencé à faire des spectacles de contes, et voilà. Après, je rejoins beaucoup Delphine. On est conteur parce qu'on se déclare conteur. Ça, voilà. Il n'y a pas de, moi non plus, j'ai pas fait de formation de conte. C'est vraiment, il y avait les histoires de ma mère. J'avais envie de les raconter. Les gens aimaient quand je les racontais. Du coup, j'ai commencé à les raconter de plus en plus devant les gens. Petit à petit, à vraiment être à l'aise avec ça. Et voilà. Moi, ce que j'adore dans le conte, c'est ça. C'est, j'ai une trame, une histoire. Je sais où elle va. Et ensuite, je prends ce que me donnent les gens, je prends ce qui se passe et puis voilà, je raconte mon histoire. Souvent quand je raconte, il y a beaucoup d'improvisation, mais je me permets une petite anecdote et puis ensuite je finirai mon truc, mais là j'étais en Bretagne récemment et en fait j'étais chez un très bon ami à mes parents c'est mon tonton Alain, donc qui est conteur breton, qui habite à Morlaix, et qui lui en fait est un des derniers conteurs à fonctionner comme ça. Il a des trames, c'est-à-dire qu'il a vraiment pas de texte, il a des points de chute dans l'histoire, mais après c'est complètement free, ce qui fait il improvise complètement toute son histoire, et j'aime beaucoup cette manière de raconter. Alors j'en suis pas à son niveau, lui il rebondit sur absolument tout, et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir travailler quand j'y suis allé, mais je travaille un petit peu comme ça aussi, dans le sens où j'aime beaucoup sortir de l'histoire. Par exemple, les maïs OGM tout à l'heure ne font pas partie de l'histoire originale, même si je sais que c'est surprenant.
Et du coup, ça me fait un peu penser à des canevas de la Comédia dell'Arte, coup que vous avez une structure à peu près rigide, mais vous permettez d'improviser, de rebondir sur un fait d'actualité, par exemple, ou si vous êtes avec du coup des spectateurs, de faire plus d'interconnexion. Je sais pas si c'est français, c'est interconnexion. C'est l'interconnexion
avec prendre tel enfant et puis de qui soit foutre le bordel ou ce genre de choses et puis de le faire intervenir dans l'histoire et de le happer comme ça. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et oui, c'est ça, oui, c'est un peu comme de la comédia.
Ce qui aussi laisse la place à l'improvisation dans le conte, c'est que on est alors souvent tout seul sur scène, alors pas toujours hein, parce que tu peux être avec des musiciens, tu peux être avec d'autres conteurs, mais il y a quand même le côté où à un moment donné il y a l'histoire et puis t'as la scène et à toi de faire vivre l'histoire quoi. Et en parlant de scène, autant Lodoïs et moi,
c'est beau ça. Ouais, je vois où est-ce que tu veux en venir. C'est magnifique.
En parlant de scène, Lodoïs et moi, c'est vrai qu'on n'est pas, on s'est pas forcément formé en tant que conteur. Par contre, on s'est formé dans le théâtre.
Ouais. Ouais. Oui, non mais oui.
Voilà.
C'est là où vous êtes rencontrés déjà.
Voilà.
On a fait en fait l'école à Rancène, qui est dans le 7e, sur la place Mazagran.
Quand on était jeunes.
C'est ça, exactement. et voilà, ouais, on a fait la deuxième année de l'école et on s'est rencontrés là-bas. Enfin, moi personnellement, en tout cas, après, je ne sais pas toi, Delphine, mais moi j'en ai un excellent souvenir. C'est une école que je conseille vivement.
Oui, c'est une école. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est vrai que j'avais plus de l'expérience en tant que conteuse et en tant que clown avant de commencer l'école. Donc je me disais un peu, oula, je vais faire une école de théâtre. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une école qui est assez ouverte, libre. C'est pas les bons mots parce que je pense que toute école est ouverte et libre, mais dans le sens où on travaille vraiment, enfin, on a bossé sur des spectacles autant de ce qu'on pourrait dire de théâtre physique que des spectacles où le texte avait plus d'importance. Voilà. Donc, c'est vrai que C'est une école chouette.
C'était vaste.
Et tellement chouette qu'à la fin, lorsqu'on est sorti de l'école, on a même monté un collectif ensemble.
Mm-hmm. Comment il s'appelle ?
Bah, c'est le chantier collectif, du coup. Mais il y a eu, oui, voilà, il y a notre promotion, en l'occurrence, ça a vachement bien fonctionné. Il y a eu une très belle émulsion de groupe, quoi. Et du coup, à la fin, on a dit qu'on voulait continuer à travailler ensemble et on a monté le chantier collectif, qui a 4 ans à peu près maintenant. 4 ans, 2013, 2000, non. 3 ans, oui, tout à fait. 3 ans, voilà, c'est ça. C'est une, ça commence petit à petit à devenir une jeune compagnie. Et c'est chouette, c'est une belle aventure.
Oui, et ce qui est intéressant dans votre compagnie, c'est que autant donc du coup vous proposez différents spectacles, autant de théâtre que de la poésie, enfin des poèmes, ouais. si je ne me trompe pas.
Des lectures aussi.
Des lectures, mais qui vous proposez également des ateliers.
Tout à fait.
Avec des scolaires, mais aussi des ateliers où tout le monde peut venir. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aborder le public et les personnes avec pas seulement on va vous montrer quelque chose, mais on peut aussi communiquer avec ce média, c'est-à-dire le théâtre qui nous passionne, et on veut vous montrer ce qu'on sait faire, et aussi on veut que vous nous montrez ce que vous savez faire.
Ouais, ça, d'ailleurs c'est chouette. la saison prochaine à partir de septembre, et on va proposer une année avec des stages réguliers. Alors, on ne sait pas si c'est tous les mois ou tous les trimestres, mais oui, il y aura une programmation de stages.
D'accord, vous avez une page, un site internet ?
On a un Facebook.
Un Facebook. Et donc, c'est chantier, on tape chantier collectif.
Le chantier collectif.
Le chantier collectif. Et maintenant, on va peut-être continuer avec une autre histoire.
Ouais, peut-être qu'on pourrait faire des histoires courtes, puisque en fait, il nous reste un quart d'heure et que Lodoïs et moi sommes super bavards quand on raconte des histoires. Donc, peut-être qu'on va devoir se faire un ping-pong d'histoires courtes.
Je vais raconter une histoire courte alors. C'est une histoire zen. C'est l'histoire d'un samouraï. Un samouraï qui avait participé à de très 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 nombreuses batailles dans sa vie. Il avait beaucoup de remords et il se questionnait sur le paradis et l'enfer. En gros, comment est-ce qu'on faisait pour aller au paradis et à quel point est-ce qu'on pouvait aller en enfer? Et pour ce genre de questions, quand tu es samouraï, tu vas voir un maître zen. En l'occurrence, donc, celui-ci habitait tout en haut d'une montagne. Le samouraï grimpa, escalada la paroi, arriva tout en haut, s'inclina devant le maître et lui posa sa question. « Maître, je voudrais savoir où commence le paradis et où commence l'enfer. » Le maître zen le regarda avec une expression extrêmement dédaigneuse et lui dit « Attends, toi, un chien du shogun, un meurtrier en série, une vieille raclure de samouraï qui vient me voir comme ça et qui me demande des leçons de sagesse. » Le samouraï vira tout de suite au rouge. Son sang ne fit qu'un tour, il dégaina son épée et se prépara à décapiter le vieux sage. Alors celui-ci leva une main et dit « Ici commence le chemin de l'enfer. » Le samouraï rengaina son sabre, s'inclina devant le vieux maître et celui-ci dit « Ici commence celui du paradis. » Je vais raconter une deuxième histoire zen, qui, celle-là, est très 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 courte, ça fait partie d'un petit recueil, la plupart des contes sont totalement improbables. C'est l'histoire, donc ça se passe dans un monastère, et il y a un disciple qui est assis en tailleur et qui fait zazen. Le maître du monastère vient le voir et lui demande « Dis-moi mon garçon, qu'est-ce que tu fais ?» Et le disciple lui répond « Maître, je fais zazen. » « Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu fais zazen, mon garçon ?»« Je fais zazen parce que je veux devenir Bouddha. »« Ah, mais si tu veux devenir Bouddha, pourquoi fais-tu zazen ? Deviens Bouddha. »
Nasreddin se promène dans les rues d'Istanbul avec un ami. Et cet ami confie à Nasreddin qu'il n'a pas de papier, il n'a pas de carte d'identité, c'est un clandestin à Istanbul. Nasreddin lui dit, écoute, si on croise la police, toi, tu restes sur place et moi, je cours. Et quelques rues plus loin, il croise deux policiers. L'ami de Nasreddin ne bouge pas et Nasreddin se met à courir le plus vite qu'il peut. Les deux policiers partent à la poursuite de Nasreddin. L'ami de Nasreddin, lui, se faufile dans des ruelles et s'en va loin, très loin. Et Nasreddin continue de courir. Il fait le tour du pâté de maison et les policiers le suivent. Il fait une deuxième fois le tour du pâté de maison et les policiers le suivent. À la troisième fois, il s'arrête essoufflé. Les policiers le rattrapent, ils lui demandent ses papiers. Nasreddin montre ses papiers. Les policiers lui disent mais pourquoi tu t'es mis à courir comme ça? Les policiers sont aussi très essoufflés. Nasreddin dit mais mon docteur, il m'a dit qu'il fallait que je fasse de la course à pied chaque jour, 2-3 fois le tour de mon pâté de maison. Alors, ce matin, je faisais ma course à pied. Et les policiers lui répondent mais tu nous as vus derrière toi courir, pourquoi tu t'es pas arrêté? J'ai cru que vous aviez le même docteur que moi, répond Nasreddin.
Nasreddin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage extrêmement récurrent dans les histoires du Moyen-Orient. Mais ce qu'il y a de très très drôle avec les contes, c'est qu'on les retrouve absolument partout. Je vais vous raconter une histoire de Nasreddin. Mais cette histoire, je l'ai entendue en Bretagne, justement, récemment, dans une autre version qui n'avait rien à voir. C'était une grand-mère bretonne qui remplaçait Nasreddin, et ça se passait à Morlaix. Donc vraiment, rien à voir, et pourtant, la même histoire. Mais moi, je vais vous le raconter avec Nasreddin. Ça se passe dans un petit village. Dans ce petit village, il n'a pas plu depuis 3 mois. Les puits sont vides. Les jardins sont vides. Tout le village est rassemblé sur la place, autour d'un saladier. Dans ce saladier, il y a de l'eau, un peu d'eau, un peu boueuse, mais c'est tout ce qui reste. On vient de finir une grande prière pour faire tomber la pluie, mais ça n'a pas marché. Alors, en désespoir de cause, les villageois décident d'aller voir Nasreddin, Nasreddin le sage. Il toque à sa porte, Nasreddin ouvre. Nasreddin, Nasreddin, est-ce que toi, tu aurais une idée? Comment faire pleuvoir? S'il te plaît, fais pleuvoir sur le village. Nasreddin dit, eh bien, oui, je pense que j'ai une idée, mais si vous voulez que je fasse pleuvoir, il va falloir me donner la calebasse là remplie d'eau. Les villageois hésitent, c'est la dernière calebasse remplie d'eau du village. Mais bon, hein, après tout, on n'a que ça. On va tenir quoi? 1 jour, 2 jours? On tente le tout pour le tout et on donne la calebasse à Nasreddin. Nasreddin pose la calebasse devant sa maison et tranquillement, il commence à enlever sa djellaba. Les villageois le regardent faire. Nasreddin finit d'enlever sa djellaba. Il enlève son turban. Son vieux turban tout crotté, il le pose à côté de sa djellaba trouée et pleine de poussière. Il enlève ses babouches. Il enlève son maillot de corps, pareil, tout crade, tout plein de poussière. Il s'assoit à côté de la calebasse et il commence à laver sa djellaba. L'eau petit à petit devient marron, marronasse, puis carrément noire. Nasreddin ne se lave pas très souvent. Les villageois ont voyé ça, commencent à paniquer. Mais enfin, Nasreddin, c'est tout ce qui nous reste. C'est la dernière calebasse d'eau du village. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Attendez, attendez. Vous allez voir. Et Nasreddin finit de nettoyer sa djellaba. Il la pose. Il prend son turban et commence à nettoyer son turban. Mais enfin, Nasreddin, qu'est-ce que tu fais? Nasreddin, explique-nous au moins.
Nasreddin ne répond rien. Il finit de nettoyer son turban. Il le pose. Il prend son maillot de corps et commence à laver son maillot de corps. Bon, là, les villageois n'en peuvent plus. Tout le monde est furieux. Les villageois vont attraper des bâtons, des pierres, des pelles, des pioches. Et tout le monde s'approche de Nasreddin, décidé à au moins en finir avec en finir avec lui avant de mourir de soif. Alors, Nasreddin, lui, qui reste très très zen, accroche son linge sur un fil devant sa maison. Et alors que les bras se lèvent, armés de bâtons, que les pierres vont être lancées, tout d'un coup, le ciel s'obscurcit. Un immense nuage noir cache le soleil. Et tout d'un coup, le ciel se crève. La pluie tombe. Une pluie drue, torrentielle. 2 ans, 3 ans, 15 ans qu'on n'avait pas eu une pluie comme ça, qui tombe sur le village sans cesse, qui commence à tout inonder, à nourrir les champs, les rivières, les ouèdes, tout se remplit. Oh, tout le monde est fou de joie. Les gens sortent les calebasses, sortent les seaux, sortent les jarres. Mais des villageois s'attardent près de Nasreddin, s'inclinent devant lui, Nasreddin le sage, et lui demandent « Nasreddin, Nasreddin, comment tu as fait, Nasreddin? Quelle est cette magie ?» Et Nasreddin répond « Ah non, non, mais détendez-vous les gars, hein. C'est juste que moi, à chaque fois que j'étends mon linge, il pleut. »
Eh ben, très bien, c'est une très belle histoire, les deux, donc sur Nasreddin. Est-ce que vous pouvez me dire quelques petits mots avant de finir sur Nasreddin?
Nasreddin, ce qui est intéressant, donc c'est un personnage qui est hyper récurrent dans les histoires, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas toujours Nasreddin le sage. C'est pas toujours très malin. Ça lui arrive d'être bête. Ça lui arrive d'être bête, d'être simplé, d'être pas forcément sympa. Enfin, ouais, c'est comme Jean et Jacques, pareil. Il a plein de personnalités.
Et donc, on retrouve ces personnages, donc on parle de Jean, Jacques, de Nasreddin, un petit peu partout dans le monde. Et comme tu nous disais tout à l'heure, Delphine, par exemple, vous avez tous les deux la même histoire, dans le sens que c'est pourquoi la mer est salée, mais c'est pas du tout la même histoire. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais en gros, c'est pour comprendre la même chose, mais c'est pas dit de la même façon et c'est pas les mêmes événements.
Oui, on n'a pas eu le temps de la raconter, mais on avait prévu de raconter une histoire. C'est un conte éthiologique, c'est-à-dire conte du pourquoi et du comment, les contes qui expliquent les phénomènes de la vie. Et dans le conte éthiologique, on avait une histoire qui s'appelle pourquoi la mer est salée, et Lodoïs avait une réponse, un conte qui venait de Bretagne, et moi j'en avais un qui venait d'Hawaï, je crois. Et en fait, c'était juste pour montrer que pour ce qui est des contes éthologiques, donc les contes du pourquoi et du comment, mais en fait les contes tout court, les histoires, partout dans le monde, les hommes, là où il y a des hommes, et peut-être si on savait écouter le langage des animaux, on pourrait dire partout où il y a des animaux, mais en tout cas partout où il y a des hommes, il y a des histoires, parce que les hommes se sont posé des questions sur pourquoi il y a des étoiles dans le monde, dans le ciel, pourquoi ce rocher il est là plutôt qu'à un autre endroit, et puis ils se sont aussi inventer des histoires. Après, je pourrais pas dire si les contes sont des histoires inventées ou si c'est des légendes qui sont devenues des contes. La question de d'où viennent les contes, je ne sais pas, même si j'ai donné un bout de réponse en début d'émission en expliquant le mythe, enfin en racontant le mythe de l'hydromel poétique. Mais non, mais trêve de plaisanterie, mais juste oui, que des contes, il y en a de partout, ils ont voyagé, et souvent on retrouve les mêmes trames de contes, allez, on va dire au Canada, comme en Norvège, comme en France, comme en Turquie, parce que on est des hommes et que on est différents certes, mais malgré tout, on se pose les mêmes questions entre guillemets existentielles. Mmh. Voilà. Mais les contes sont là pour nourrir ces questions existentielles.
Il n'y a pas longtemps, j'étais allé voir un spectacle de Joël Pommerat, Le Petit Chaperon Rouge. Et en fait, avant, il y avait une petite conférence d'une... Alors, je sais plus si c'était une psychologue ou une psychiatre, mais qui, en tout cas, nous parlait des contes. Et c'était très intéressant parce qu'elle disait ça, justement, elle parlait de ça. Et par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, il y a au moins une centaine de versions du Petit Chaperon Rouge. Pareil, Peau d'Âne. Et donc pas forcément que les contes éthiologiques, ça marche aussi avec les contes qui sont plus, par exemple, par l'inceste, toute cette chose-là. Mm-hmm. Il y en a partout des histoires comme ça et qui tiennent plus ou moins la même trame. Et c'est très 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 intéressant de savoir ça. Mais même au-delà de ça, par exemple, bah du coup, pour revenir à la Bretagne, j'étais chez mon tonton conteur et en fait, il faisait une balade contée dans Morlaix en fait. Et à Morlaix, il y a ce qu'on appelle des maisons à encorbellement. C'est des maisons traditionnelles qui sont construites comment dire, il y a un premier étage puis un autre puis un autre puis un autre qui sont construites les uns par-dessus les autres. Ça avance dans la rue. En fait.
Oui, parce que ça, c'est au prix du loyer aussi.
Ouais, c'est ça. Ben, ce que disait Alain, du coup, c'est que, les gens disent que c'est parce qu'il y avait les taxes et que c'était au niveau du, la surface au sol et que du coup, on construisait au-dessus pour pas avoir à construire à côté et à payer des impôts en plus. Mais je vais vous raconter la vraie histoire. Et on a fait toute une rue comme ça où il y avait des maisons à encorbellement des deux côtés. Et toute la rue, du coup, nous a raconté des différentes versions de pourquoi est-ce qu'on appelle ça les maisons à encorbellement.
Oh, c'est génial.
Et c'était très drôle. Mais voilà, dans la même ville, même, donc, il y a 8 versions différentes de pourquoi est-ce que les maisons à encorbellement s'appellent les maisons à encorbellement. C'est très rigolo, je trouve.
Carrément. C'est un petit clin d'œil à l'émission de la semaine dernière avec nos comparses des visites d'idées qui aussi ont leur manière de raconter les choses. Eh ben, je vous remercie tous les deux. Merci Delphine Touilleux et Lodoïs Doré d'être venus pour nous raconter de si belles histoires, de si belles choses. Et je vous dis à tous et à toutes, je vous souhaite surtout de très bonnes vacances, un très bel été. Et nous nous retrouverons la rentrée prochaine pour une nouvelle saison du Théâtre de la Gamelle.
Waouh,
ça envoie du rêve un petit peu. Hein. Allez, la bise à tous. Ciao.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art nullar, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue, il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.